Salut, je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste passionnée par la bouffe, l'humain et le sport. C'est d'ailleurs ces différentes passions, ma curiosité et mon désir de dire les vraies affaires qui m'ont amené à lancer le podcast il y a maintenant 2 ans de ça. Au quotidien, je gagne ma vie grâce à la consultation privée, aux conférences et à la création de contenu en nutrition, évidemment. C'est pour cette raison que j'ai la chance de toujours être connectée avec ma communauté et donc de pouvoir baser mon contenu sur vos besoins réels. Dans cette 3e saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je vais répondre à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seule au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à van-nutritionniste ou au daigle-vanessa à commercial-dénutrition.com. À bientôt! Salut! J'espère que tu vas bien et que tu passes un merveilleux mois de janvier. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 9 janvier sur l'heure du dîner et je viens tout juste de reprendre un rythme normal au boulot. Donc, j'ai pas vraiment pris de vacances pendant les fêtes parce que tout simplement mon chum n'en avait pas. Donc, je préfère les conserver pour quand il sera en congé lui aussi afin qu'on puisse en profiter pleinement. Par contre, la garderie étant fermée, j'avais mon coco à la maison, donc c'était assurément un rythme un peu plus lent par rapport au travail. J'avais pas de clients pis tout. Ça m'a vraiment permis de me poser, me reposer, profiter du temps en famille et je reviens fortement motivée à reprendre pour le mois de janvier. J'avoue, avec une petite hâte pour le mois de peut-être avril, mais je ne suis pas la plus grande amoureuse de l'hiver, mais bon, faut ce qu'il faut. Donc, on va passer au travers. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je te parle d'un sujet que j'ai probablement déjà abordé. Je sais que j'ai pas fait un épisode complet à ce sujet, mais c'est clair que j'en ai déjà discuté dans différents épisodes. J'ai envie qu'on parle de quantité. Donc, c'est quoi la quantité d'aliments qu'on doit manger? Donc, je dis souvent que l'alimentation, en fait, les principes d'alimentation, ça se divise en 3 composantes. Donc, j'aime dire qu'il y a au niveau de la qualité alimentaire, donc la qualité des aliments qu'on choisit de mettre dans notre assiette, il y a la quantité. Donc, on a bien beau manger les meilleurs aliments du monde, mais si on en mange trop peu ou trop, ben on répond pas à nos besoins. Puis finalement, il y a tout ce qui est niveau comportemental. Donc, une fois qu'on a la quantité, qu'on a la qualité des aliments, est-ce que notre relation et le comportement envers la nourriture est sain et adéquat ou pas? Alors aujourd'hui, je parle spécifiquement de quantité et pourquoi c'est important de manger en cohérence avec ses besoins. Pour évidemment plusieurs choses, notamment de respecter les besoins de son corps, donc les besoins en nutriments, d'avoir un niveau d'énergie qui est optimal, de se sentir bien, de maintenir son poids, etc. Et ce qui est le plus fortement suggéré, en fait, par rapport aux quantités, c'est tout simplement d'écouter ces fameux signaux corporels. Et pourquoi c'est important d'écouter ces signaux corporels? Pour plusieurs raisons, notamment parce que nos besoins, ils varient d'une journée à l'autre. Donc, si on fait exclusivement référence à des recommandations externes pour guider nos apports, on va peut-être moins être à l'affût de ces petites variations-là. Puis, si vous regardez autour de vous, là, souvent les personnes qui ont des relations très saines avec la nourriture, des personnes qui n'ont pas vraiment de préoccupation à l'égard de leur poids, souvent c'est des personnes qui vont vraiment écouter leur corps et qui vont gérer les quantités en fonction de leur faim et leur rassasiement. Et j'aime bien dire aussi, mais en fait j'ai lu ça quelque part, j'arrive pas à me souvenir où, mais que simplement si on n'aurait pas été exposé à la culture des diètes comme on l'est aujourd'hui, manger en fonction de ses signaux corporels, ça serait, puis manger intuitivement, ça n'aurait pas de terme, ça serait simplement manger. T'sais, en fait, c'est comme ça que l'humain a été créé. Finalement, l'humain est capable de déterminer ses besoins par lui-même grâce à la régulation de son corps. C'est sûr qu'à ce jour, on vit dans un environnement qui est challengeant, on est particulièrement sédentaire, on est constamment exposé à l'abondance, dis-je, après cette période des fêtes où l'abondance est particulièrement au rendez-vous. Donc, c'est sûr que le challenge est supérieur, puis qu'on se doit quand même de faire part à nos connaissances et à notre rationnel pour trouver notre équilibre. Cela dit, une fois qu'on a trouvé notre équilibre, d'écouter son corps pour déterminer les besoins, c'est tout à fait adéquat. Alors, je disais tantôt que nos besoins, ils allaient varier d'une journée à l'autre. Eh bien, effectivement, ils peuvent varier selon la période du cycle menstruel dans laquelle on se trouve, selon la dépense énergétique qu'on va avoir eue dans la journée. Donc, quand je dis dépense énergétique, là, oui, il y a l'activité physique, mais il y a aussi comme, est-ce que tu as passé la journée à travailler en télétravail devant l'ordi ou tu as passé la journée à courir après ton petit gars de 21 mois qui court partout toute la journée? Ça fait vraiment une différence. Il y a aussi le nombre d'heures passées en éveil. Donc, si pendant les fêtes, tu te levais à 11h, puis que finalement, le soir à 9h, tu étais brûlé, puis que tu allais te coucher, bien, c'est sûr que les nombres d'heures éveillées font une différence aussi parce que la dépense énergétique du corps est plus grande quand on est en état d'éveil. Puis, les apports des jours précédents aussi. J'aime bien dire que le corps est une merveilleuse machine qui se régule à merveille. Et donc, s'il y a des journées qu'on va avoir mangé plus ou qu'on va avoir mangé moins, des fois, sur le coup, sur la journée, ça fait complètement l'affaire, on se sent bien, mais les jours suivants, c'est naturellement, notre corps peut s'ajuster, on peut avoir plus ou moins faim qu'à l'habitude. Manger en fonction de ces signaux corporels, c'est le meilleur moyen de maintenir son poids dans le temps. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, je veux vraiment un peu insister sur le fait que ce que je remarque depuis un moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de l'alimentation intuitive puis se disent « Ah, ben tu sais, c'est vrai, dans le fond, je suis tannée de me restreindre, je suis tannée des diètes, ça n'a pas de bon sens, c'est vrai. Moi, je vais apprendre à perdre du poids sainement en écoutant mes signaux corporels. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'écouter ces signaux corporels, c'est pas une méthode de perte de poids, parce que quand on écoute nos signaux corporels, on mange en fonction de nos besoins. Donc, on commence à manger quand on a faim, on arrête de manger quand on a plus faim. Ça veut pas dire que si on écoute notre corps, il est impossible qu'on perde du poids parce qu'on peut écouter nos signaux corporels, mais faire des choix alimentaires qui sont plus sains, améliorer nos comportements, puis que finalement, ça vienne qu'à avoir un impact à la baisse sur la balance. Mais c'est vraiment pas ça l'objectif. Donc, c'est vraiment d'écouter son corps pour répondre aux besoins énergétiques. Donc, on comprend qu'on n'est pas en déficit et que ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de combler nos besoins énergétiques tout en développant une relation plus saine et positive avec l'alimentation. Une autre raison aussi pour laquelle c'est pertinent d'écouter ces signaux corporels, c'est que de toute façon, là, même si on essaie de se fier à des sources externes, à moins qu'on fasse affaire avec des choses qui sont vraiment comme calculées, même encore là, tu sais, c'est qu'il y a tellement de marges d'erreur qui vont se cumuler dans le sens que, first, d'une journée à l'autre, tes besoins ne seront pas les mêmes, mais également, on s'entend qu'une pomme versus une autre pomme, c'est pas nécessairement le même nombre de calories. Si on dit une demi-tasse de yogourt grec, c'est quel yogourt grec, combien de pourcents, quelle saveur, en as-tu vraiment mis une demi-tasse ou un peu plus? Des marges d'erreur qui se cumulent par-dessus marge d'erreur, par-dessus marge d'erreur, par-dessus marge d'erreur, ça fait en sorte que finalement la précision, quand on se fie à des chiffres externes, finalement, pour déterminer nos besoins, sont quand même très grandes. Fait que, tu sais, on peut essayer de trouver un genre de range pour se donner une idée si on n'est pas rendu à faire confiance à notre corps, si ça nous inquiète, mais la vérité, c'est que d'essayer de suivre un plan à la lettre, en comptant à la lettre tout ce qu'on mange, comme avec des applications comme MyFitnessPal, d'aller faire des comptes de calories, c'est vraiment pas pertinent là, dans ce contexte-là. Il y a une autre chose aussi, c'est que la satisfaction et le plaisir, c'est deux choses qui sont super importantes si on veut un maintien des saines habitudes de vie. Puis ça, ben c'est beaucoup plus facile à obtenir si on mange en cohérence avec ses besoins, donc on mange quand on a faim puis on mange plus quand on a plus faim, que si on ne respecte pas ses signaux. Puis encore là, mettons, on s'impose une collation parce qu'on nous a dit de prendre une collation alors qu'on n'a pas du tout faim. Voilà, j'ai des petits points devant moi, là, puis j'essaie d'observer qu'est-ce que je vous ai dit ou non. Puis finalement, j'avais envie de vous partager quelques petits exemples aussi qui vous permettent de peut-être mettre en contexte le pourquoi le corps est aussi bon finalement pour nous permettre de déterminer les quantités qu'on doit manger. Donc, mon exemple numéro un jour, il y a un client justement qui me dit que, il me parle de sa journée, c'est une journée de week-end, puis il me dit, ouais, là, samedi, j'avais un party piscine, donc pour dîner, j'ai mangé des hot dogs. Il dit, par contre, là, justement, j'avais, tu sais, quand j'ai quitté en fin d'après-midi, j'avais vraiment plus faim, là, il dit, tu sais, j'avais quand même beaucoup mangé pendant la journée, donc je suis juste allée me chercher une petite soupe, là, au Thaï-zon. Donc, lui, se référant justement à ses connaissances de la culture des diètes, de genre une petite soupe, c'est pas beaucoup de calories puis tout, ben il est arrivé à la maison, il a mangé sa petite soupe, sauf qu'il l'a mangé en entier, se disant que c'était juste une soupe. Sauf que finalement, quand on observe les valeurs nutritives de la fameuse soupe au Thaï-zon, c'est une soupe qui contient plus de 1000 calories, donc les soupes sont quand même très caloriques là, dans les restos au Thaï. Ça, c'est normalement, tu sais, quelqu'un qui est justement très bien connecté à ses signaux corporels aurait pu avoir le même réflexe de se dire « Ah, j'allais me chercher une petite soupe, tu sais, j'ai pas vraiment faim. » Sauf que en étant à l'écoute de ses signaux, il aurait comme fait, mettons, à moitié de la soupe, « Un crime, me semble j'ai plus faim. J'ai vraiment plus faim, ça doit être trop. » Puis, on la finit pas. Si on fait juste se convaincre que c'est une petite soupe, c'est pas calorique, c'est correct, ben on part le compte finalement, puis on mange au-delà de nos besoins. Un autre exemple, un peu dans le même genre, encore une fois, en discutant avec des clients puis en regardant le menu du Saint-Hubert, là, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai comme réalisé que le poké bar sur le menu était l'une des choses les plus caloriques, encore une fois. Puis tu sais, c'est correct dans le sens que même si c'est le repas le plus calorique du menu, il contenait quand même des ingrédients qui étaient très sains, donc beaucoup de légumes, il y avait du saumon, donc clairement des avocats, tu sais, c'est des aliments qui sont gras, mais des bons gras, mais c'était calorique quand même. Donc quelqu'un, par exemple, qui mange avec un objectif de diète va se dire « Bon, ben j'ai fait un bon choix ce midi, j'ai mangé un pokéball, tu sais, dans ma tête à moi, c'est plein de légumes, donc probablement full pas calorique. » Puis, dans ce contexte-là, ben premièrement, les chances que la personne termine le poké puis le mange dans sa totalité est quand même grande puisqu'elle est convaincue justement que c'est quelque chose qui contient peu de calories. Alors que quelqu'un qui est attentif à ses signaux va peut-être se dire à un moment donné dans le poké, crème, finalement, c'est beaucoup, hein? C'est trop pour moi, je vais peut-être prendre le reste pour emporter. Puis, l'autre chose aussi, c'est que quand on se convainc que les choses sont peu caloriques alors qu'ils le sont peut-être pas, ben il y a des chances qu'après on se dise « Ah, ben je pourrais peut-être prendre un dessert, t'sais, j'ai fait un bon choix parmi la carte » ou « Ah, ben tu sais, certaines personnes qui vont se dire « Ah, ce soir je me gâte, t'sais, ce midi j'ai été plus raisonnable par exemple » donc, bref, tout ça pour vous faire réaliser qu'on est parfois un petit peu... pas bon pour déterminer si en termes de calories, le repas, il y en a beaucoup ou pas, alors que notre corps, si on l'écoute, il nous le dit en quelque sorte. Puis tu sais, quand je dis qu'on n'est pas bon, j'ai une bonne connaissance des aliments puis de leur densité, mais moi aussi, je pourrais vraiment me tromper par rapport à certains éléments. Puis finalement, le dernier exemple que j'ai, c'est un exemple que j'ai moi-même vécu justement dans une petite escapade que j'ai faite avec mon chum, on est allé à Bromont là, il y a quelques années, puis on est allé manger dans un resto de fondue chinoise qui était absolument trop délicieux et je suis sortie de là, j'avais vraiment trop mangé parce que oui, ça arrive à tout le monde de ne pas écouter ses signaux corporels puis c'est bien correct dans la mesure où même le plus intuitif des mangeurs ne mange pas à sa faim 100% du temps. Mais moi, normalement, quand je me lève le matin, j'ai vraiment très faim. T'sais, manger, c'est une des premières choses que je fais. Je suis contente, j'adore mon déjeuner, puis j'ai faim le matin. Puis là, tu vois, le lendemain de ce souper-là où j'avais mangé de la fondue puis j'avais vraiment trop mangé, ben comme à l'habitude, je me suis levée puis j'ai attendu d'avoir faim pour manger. Sauf que normalement, je me lève, je mange parce que j'ai faim. Puis là, tu sais, la faim n'est pas venue jusqu'à avant comme 11h, 11h30. Fait que finalement, j'ai dîné, j'ai pas déjeuné ce matin-là. Puis j'ai pas déjeuné ce matin-là, pas parce que je me disais « aïe, j'ai vraiment trop mangé hier », tu sais, mais vraiment juste parce que j'avais pas faim. Donc, le corps est tellement une machine qui se régule bien que tout simplement, tu sais, j'avais ingéré trop de calories pour mes besoins. Mon corps en avait pas besoin d'aliments ce matin-là, donc j'ai remangé finalement au dîner. Puis, probablement que si on fait le décompte, mettons, énergétique d'une journée versus une autre, ben il y a peut-être une journée où j'ai mangé 3000 calories, puis l'autre où j'en ai mangé 1500, puis finalement, ben tu sais, kiff, on en revient qu'à avoir comblé mes besoins. Puis c'est ce qui fait que quand on mange de cette manière-là, au fil du temps, ben notre poids demeure stable, puis on n'a pas à se poser de questions sur les quantités. Puis, une chose aussi qui est vraiment super importante, là, c'est que de manger en cohérence avec ses signaux corporels, ça permet tellement de diminuer la charge mentale et l'anxiété en lien avec ses repas. Tu sais, c'est tellement plus facile, là, de juste attendre que la faim se présente pour manger, que de tout compter, que de se demander si c'est correct, que de regarder les étiquettes nutritionnelles pour voir si on devrait manger plus ou moins. Fait que c'est aussi beaucoup plus simple. Mais maintenant que je vous ai parlé davantage de la pertinence d'écouter ces signaux corporels, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui se dites, en tout cas, que c'est bien beau tout ça, mais qu'ils les reconnaissent peut-être plus vraiment, parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui, à force de ne plus écouter ces signaux corporels, à force d'essayer de ne pas manger quand la faim était présente, justement pour éviter de prendre du poids, par exemple, les signaux corporels là, se font de plus en plus subtils, puis parfois on les reconnaît même plus. Donc, ça devient super difficile de déterminer quand on a faim, quand on n'a plus faim, ça peut être super abstrait. Fait que si c'est ce qu'on vit, première chose, comment on fait pour réapprendre à reconnaître ces signaux de faim et de satiété? Puis deuxième chose qui est encore tout aussi importante, sinon plus, c'est une fois qu'on reconnaît nos signaux de faim et de satiété, est-ce qu'on est en mesure de leur faire confiance? Après tout ce temps-là, est-ce qu'on se fait confiance comme humain pour manger la bonne quantité d'aliments? Parce que jusqu'à maintenant, si on a un poids qui correspond pas à nos attentes, est-ce qu'on a l'impression que ces signaux-là nous ont fait défaut? Donc, peut-être que c'est ce qu'on croit, mais moi, j'ai bien l'impression que c'est bien d'autres choses qui a pu avoir cet effet-là sur notre corps, qui ne nous plaît peut-être pas. Alors, comment se reconnecter à ces signaux corporels? La première chose, en fait, c'est vraiment d'y porter attention. Puis, tu sais, dans ce contexte-là, en fait, ça se peut, là, justement, ça se peut que tu aies l'impression de reconnaître la faim, mais si pour toi, avoir faim, ça vient avec une urgence de manger, ça vient avec des maux de tête, ça vient avec des faiblesses, de l'irritabilité, c'est peut-être aussi parce que tu reconnais tes signaux alors qu'ils sont très intenses. Donc peut-être que oui, tu reconnais la faim, mais juste lorsqu'elle est très franche. Est-ce que peut-être tu serais déconnecté avec les petits signaux un petit peu plus subtils de la faim, donc les petits signaux de début d'appétit qui seraient quand même pertinents de retrouver? Parce qu'on dit qu'on devrait s'alimenter lorsque la faim est modérée, parce que si on attend justement d'avoir une faim qui est très, très, très intense pour manger, mais c'est à ce moment-là justement qu'on arrive dans le garde-manger puis on n'a pas envie de cuisiner parce qu'on veut manger tout de suite. C'est à ce moment-là que tous les aliments, peu importe quoi, nous semble alléchant. Donc, si on avait envie justement de se faire quelque chose qui était très sain, peut-être que finalement, on a juste envie de manger une tranche de pain ou un bol de céréales parce que ça va combler notre besoin tout de suite. Il y a aussi au niveau hormonal, en fait, quand on a une faim qui est très intense, on va être attiré vers des aliments qui sont plus gras ou plus sucrés. Donc, sucrés parce que les glucides sont absorbés super rapidement ou plus gras parce que c'est plus dense en énergie. Puis aussi au niveau de la palatabilité, là, c'est clair que ça va stimuler notre système de récompense. Donc, c'est hyper dur quand on a super faim de renoncer à tout ça. Puis d'ailleurs, j'aimerais dire aussi que les personnes qui disent moi, je mange très peu, tu sais, ça va très bien, je suis capable de me priver de nourriture. Évidemment, là, ça, c'est pas ce qu'on recommande, là, mais des fois, j'ai des clients qui me disent ça, tu sais. Mais dès que je commence à manger, là, je suis plus capable de m'arrêter. Bien, souvent, c'est justement, c'est que la pauvre personne est affamée, elle a faim, mais elle le ressent pas. Puis au moment où elle se met à manger, ben là, oh, ça l'ouvre une boîte de Pandore de comme, waouh, je veux manger. Puis là, évidemment, ben encore une fois, toute une cascade hormonale qui se met en place pour aller combler pour t'amener finalement à continuer de manger puis à combler les besoins de ton corps. Donc, je poursuis avec le fait que la première étape en fait pour y arriver, ben c'est de porter attention à ces signaux. Et là, comment on fait ça? Ben, tu vas peut-être me trouver tannante avec ça. Puis c'est pas un passage obligé là, mais souvent, je vais recommander quand même d'essayer d'introduire des notions de pleine conscience à ses habitudes de vie, que ce soit des petits 5 minutes ici et là, parce que c'est très difficile de se concentrer sur son corps si on n'est pas en mesure de se connecter au moment présent. Fait que le fait justement d'intégrer un peu de pleine conscience au travers de nos habitudes de vie, ça peut nous permettre de mieux ressentir son corps. Puis si on ressent mieux notre corps, ben c'est plus facile de ressentir nos besoins de faim et de satiété. J'ai un épisode complet sur le sujet là, que j'ai enregistré à la saison 2. Donc, si jamais ça te tente de l'écouter, je vais te référer à celui-ci pour avoir plus de détails par rapport à comment finalement on fait ça, intégrer un petit peu de pleine conscience à nos habitudes de vie. Sinon, au-delà de la pleine conscience, en fait, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller tenir un journal de la faim et du rassasiement et quotidiennement, de prendre le temps de s'arrêter pour se poser des questions et quantifier notre faim et notre satiété. Donc, le matin, avant de déjeuner, prendre le journal puis dire « Ok, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai faim, mettons, sur une échelle de 1 à 5? Est-ce que j'ai une faim qui est très, très intense? Un petit peu faim, moyen faim? Puis quand j'arrête de manger aussi, comment je me sens? » Si vous allez sur Google puis que vous googlez « échelle de faim et de satiété », vous allez trouver des échelles qui permettent quand même d'aller quantifier la genre de faim et de satiété. Puis si jamais ça vous paraît super abstrait puis que ça semble très difficile comme exercice pour vous, vous pouvez aussi faire appel à un nutritionniste là, pour vous aider à vraiment quantifier la faim, la satiété. Puis plus que vous allez prendre le temps de vous arrêter puis de vous poser la question puis d'essayer de quantifier, plus que ça va devenir clair pour vous c'est quoi. Mais c'est sûr que il faut prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de s'écouter. Puis ça, ben, c'est quelque chose en 2022-2023 qu'on a un peu mis de côté là, avec la folie du moment. Puis on est toujours dans l'action, on est toujours pressé. Mais il faut prendre le temps de ralentir un peu, puis de se questionner, puis d'essayer de se connecter. Puis ça vaut la peine aussi de se poser les questions, tu sais, après, quand que ça fait quelques jours justement qu'on a rempli notre journal, tu sais, on peut le regarder, puis essayer de tirer des conclusions, d'analyser. Tu sais, par exemple, je constate que quand je mange telle chose au déjeuner, ben tu vois, j'ai besoin d'une collation l'avant-midi parce que la faim revient plus rapidement. Alors que quand je mange telle chose, finalement, je suis capable de me rendre au dîner. C'est intéressant. Tu sais, de finalement essayer de tirer des petites conclusions par rapport à ça. Puis même, des fois, entre les repas, tu sais, si vous êtes occupé au travail, des fois, si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez vous mettre une petite alarme sur votre cellulaire à l'heure où vous prendriez normalement une collation ou si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre, à l'heure où il pourrait être pertinent d'en prendre une, puis juste prendre le temps de vous arrêter puis d'essayer de vous concentrer sur comment vous sentez dans votre estomac, votre niveau d'énergie, votre abdomen, est-ce qu'il est gonflé, est-ce qu'il y a des sensations qui se passent là. Puis je vous invite aussi à vous poser la question, essayez de définir pour vous comment vous vous sentez quand vous avez faim. C'est quoi pour vous avoir faim? Donc déjà là, si c'est vraiment pas concret, donc peut-être essayer de pousser un petit peu le sujet, vous pouvez en discuter avec des amis, vous pouvez aller voir sur le web, vous pouvez faire appel à un nutritionniste également pour en discuter davantage. D'ailleurs, tantôt je disais que de manière optimale, on disait que on voulait manger lorsqu'on a une faim qui est modérée et on voudrait cesser de manger lorsqu'on sent bien, t'sais, pas lorsqu'on est plein. Ça aussi, c'est une distinction qui est intéressante à faire. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons, pour différentes raisons, en fait, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de manger jusqu'à temps qu'ils se sentent plein. Et se sentir plein, c'est peut-être un petit peu trop. Si on est plein vraiment, si on a l'abdomen un peu gonflé, peut-être que là, on a mangé un petit peu au-delà de nos besoins. Peut-être que ça va miner un petit peu notre énergie après le repas, que le processus de digestion va être un petit peu plus difficile. Donc, tu sais, normalement, après avoir mangé, on devrait se sentir bien, on devrait être satisfait, on ne devrait pas avoir un abdomen qui est gonflé. Puis, ça devrait nous permettre de tenir pour environ 3 heures. Puis, encore là, c'est tellement variable d'une personne à l'autre. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent manger 2 repas par jour puis ils se sentent très bien. Puis, il y a des personnes qui doivent manger 6 fois par jour pour se sentir bien. Puis, ça, c'est bien correct. Tu sais, trouvez votre rythme à vous. Maintenant, je suis pas mal certaine que la question que tu te poses, c'est « OK ». Cool, mais comment je vais faire pour savoir si j'ai trop mangé ou pas assez mangé? Par rapport à ça, en fait, j'ai envie de te suggérer, encore une fois, de te tourner vers les sensations, les signaux que ton corps t'envoie. C'est-à-dire, dans le contexte où tu n'aurais pas suffisamment mangé, bien, qu'est-ce qui va arriver, en fait? Tout simplement, la faim va revenir un petit peu plus rapidement. Donc, c'est possible que seulement 1 heure, 1 heure 30 après le repas, tu aies déjà faim, puis il faut normaliser ça. C'est pas parce que t'es pas normal. Ça se peut que ça soit une vraie faim, que ça soit pas nécessairement juste une faim psychologique, une envie de manger. Puis, c'est correct de l'honorer, cette faim-là aussi. Bon, ben, mettons au dîner, t'as pas mangé suffisamment. Donc, 1 heure et demie plus tard, ben, t'as faim. Ben, tu peux te permettre de prendre une petite collation sans problème. Puis, c'est tout à fait adéquat dans le contexte
Inverse, si tu avais trop mangé, ben là, sois attentif justement à comment tu te sens. Est-ce que tu as un coup de fatigue après le repas qui t'amène vraiment une baisse d'énergie? Est-ce que la digestion semble lourde, difficile? Est-ce que tu as des inconforts au niveau de l'abdomen? Puis, dans le cas où la digestion semble plus lourd, plus difficile, c'est sûr que dans certains contextes, ça se peut que tu aies la digestion qui est altérée, là. Donc, si vraiment tu as des troubles digestifs, c'est pas nécessairement lié au fait que tu as trop mangé. Puis, dans ce contexte-là, ben, qu'est-ce qui va arriver si tu as un petit peu trop mangé? Ben, si tu es attentif, justement, comme je le disais précédemment, ça va juste être un petit peu plus long avant que tu aies faim. Donc, mettons que je reprends mon exemple du dîner. Si à l'heure du dîner, tu as mangé un petit peu plus qu'à l'habitude, tu as ingéré plus de calories sans trop le savoir, mais tu le sens un petit peu sur ton corps, sur ton énergie, bien, peut-être que normalement, tu as l'habitude de prendre une collation en après-midi, puis que là, bien, tu n'auras pas faim en après-midi, fait que tu ne la prendras tout simplement pas, puis tu vas être en mesure de te rendre à l'heure du souper. Donc, tu sais, le corps, là, je le dis souvent, mais c'est une très belle machine qui se régule à merveille. Donc, je pense vraiment qu'on peut se permettre de se faire un petit peu plus confiance. Donc, en résumé, en fait, ben, en résumé, mais après, ouais, c'est un semi-résumé. J'ai d'autres choses à aborder après. Mais rapidement, mettons en rafale, voici quelques comportements qui seraient à favoriser, puis quelques comportements à limiter. Donc, à favoriser, il y a la pratique de la pleine conscience. Manger tranquillement. Donc, tu sais, ça, vous le savez, là, je suis sûre qu'on vous l'a dit, là, le fameux comme ça prend 20 minutes avant de ressentir les signaux de satiété. Ça, clairement, je ne sais même pas si c'est prouvé scientifiquement, mais moi, je sais que je mange en cohérence avec mes besoins, du moins la majorité du temps, mais clairement, je mange vraiment trop vite, là. Puis pourtant, je la sens, la satiété. ça serait intéressant de fouiller. Si quelqu'un le sait, là, si c'est prouvé scientifiquement, le fameux 20 minutes, n'hésitez pas à m'écrire, je serais bien curieuse de le savoir. Il faut prendre le temps de savourer les aliments. Donc, plus qu'on savoure les aliments qu'on aime, moins on a besoin de les manger en grande quantité pour être satisfait. Limiter la consommation d'aliments ultra transformés, parce que les aliments qui sont ultra transformés, fabriqués par l'industrie, qui vont être soit très gras, très riches en sucre, très riches en sel, ils ont tellement une haute palatabilité, c'est-à-dire qu'ils sont tellement stimulants au niveau du cerveau, au niveau du système de récompense, que ça devient super difficile de s'arrêter au bon moment parce que c'est juste trop bon, c'est juste trop le fun, c'est juste trop finalement. Fait que c'est sûr que plus on consomme de ces aliments-là, plus c'est difficile de respecter sa satiété. Puis ça, je le dis souvent, puis je le vis moi-même, tu sais. Mettons que tu manges une poutine puis que tu adores la poutine. L'affaire, c'est pas juste que la poutine, tu sais, est dense en énergie puis est assez calorique. C'est juste que crime, c'est tellement bon de la poutine que c'est difficile de dire, tu sais, au moment où tu te sens vraiment bien, ah, c'est correct, j'en veux plus, je suis satisfaite. Tu sais, souvent, quand on mange une poutine, comment on se sent après? Souvent, on a trop mangé, là. Versus, mettons, tu te fais une salade de légumineuses pour dîner. Mais la salade de légumineuses, même si elle est super bonne, là, tu sais, c'est correct. Tu es capable de t'arrêter au bon moment, là, quand tu te sens bien. Tu n'es pas comme incapable de t'arrêter tellement c'est bon, là. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait une différence. Miser sur une alimentation qui est rassasiante et équilibrée. Donc, justement, si on mange tout le temps des aliments qui sont hypocaloriques, style diète puis tout, mais on mange des aliments qui remplissent pas vraiment notre corps, puis là, on a l'impression qu'on a tout le temps faim, on comprend pas trop. Fait que, tu sais, de bien gérer aussi que notre alimentation soit nourrissante et soutenante pour nous aider finalement à évoluer dans la journée puis respecter nos signaux corporels. Puis, ben, d'être organisé puis de planifier aussi les repas, les collations en fonction de comment on sait qu'on est. Tu sais, comme je disais précédemment, là, moi, je suis quand même quelqu'un qui mange souvent. Fait que je suis pas vraiment capable de passer d'un repas à l'autre sans prendre de collation, mais je me connais. Tu sais, fait que si je vais à l'extérieur, souvent, j'ai amené des choses à manger. Tu sais, je préfère vraiment amener des choses à manger que de me rendre à en avoir trop faim. En plus, je suis vraiment de mauvaise humeur quand j'ai trop faim. Puis, finalement, les comportements à limiter, ben, ça serait la restriction calorique. Donc, de toujours vouloir se restreindre, de boire de l'eau quand on a faim pour essayer de se couper l'appétit. Les fameux coupe-faim, là, c'est pas des bonnes idées, là. La faim, c'est un sentiment qui est agréable, qui est intéressant. Moi, quand j'ai faim, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je vais manger. Fait que je suis bien contente quand j'ai faim. Il y a la prise d'alcool aussi qui peut bousiller un peu la perception des signaux corporels. Ça ne veut pas dire de jamais prendre d'alcool, c'est juste que soyez au fait que si par exemple à tous les repas, au souper, vous prenez 3 verres d'alcool, ben ça se peut très bien effectivement que vous soyez plus capable tout simplement d'écouter vos signaux corporels parce que tout ça va être un petit peu brouillé. Puis, le fait de suivre des structures alimentaires qui sont très rigides, là, donc évidemment, ça nous éloigne de la connexion au corps.
Pour conclure, donc j'y viens, je voulais parler un peu aussi du fait que, bon, c'est bien beau tout ça, mais je suis bien consciente que la perfection n'est pas de ce monde. Puis dans certains contextes, ben, l'écoute des signaux corporels, elle peut être particulièrement difficile. Je pense notamment à certaines personnes qui vivent des maladies ou qui prennent de la médication qui vont influencer la perception de ces derniers. Tu sais, d'ailleurs, on sait aujourd'hui que le simple fait de perdre du poids, ça va augmenter la sécrétion de ghrelin, qui est une hormone de sensation de la faim. Fait que, tu sais, déjà là, ça va pas nécessairement en faveur là, de la diminution pondérale. Puis il y a quand même une liste, j'ai quand même une liste là, sous les yeux de médicaments qui peuvent brouiller les signaux corporels. Là, c'est une liste qui est non exhaustive, mais j'ai essayé de faire les recherches les plus précises possibles, en fait. Puis je vais d'ailleurs déposer là, un article en ce sens sur mon blog si vous voulez avoir plus d'informations. Mais il y a certains médicaments qui vont stimuler l'appétit, mais encore là, tu sais, c'est pas défaitiste dans la mesure où si les médicaments vont stimuler l'appétit, des fois, c'est comme on peut constater qu'il va y avoir une prise pondérale chez environ 10 % des personnes qui vont prendre la médication, par exemple. Tu sais, c'est jamais comme si tu prends ce médicament-là et inévitablement tu vas prendre du poids. Donc, si tu es au fait que le médicament peut avoir cet effet secondaire-là, ben être particulièrement attentif à tes apports énergétiques et ta dépense, du moins pendant que tu introduis le médicament. Donc, évidemment, les antidépresseurs, puis ça aussi, ça fait le sujet complet d'un épisode de podcast là, que j'ai fait dans la première saison. Donc, tout ce qui est médicaments qui font, qui perturbent finalement là, les signaux corporels ou qui ont une influence sur le poids. Donc, ceux qui augmentent l'appétit, antidépresseurs, antipsychotiques, antihistaminiques et la cortisone, par exemple. Puis, les médicaments qui vont couper l'appétit, donc il y a le Ozempic, le Victoza, qui sont des médicaments qui sont donnés justement pour la perte de poids, Vivance, Ritalin, Concerta, donc pour les troubles de TDA, TDAH, puis la Phentermine, dont j'oublie complètement à quoi ça sert. À noter ici que je ne suis pas pharmacienne. Bref, je vous ai résumé ça de manière assez courte, là, mais comme je dis, j'ai tout mettre ça à l'écrit de manière la plus concise et efficace possible et je vais vous déposer ça sur mon site web. Puis tu sais, rendu là, justement, on fait quoi? En fait, si on prend des médicaments qui bousillent nos signaux corporels, ben je vous dirais, tu sais, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut apprendre à évoluer dans le temps puis voir, bon, est-ce que, c'est somme toute, la faim est présente ou pas du tout? Tu sais, comme les médicaments qui coupent l'appétit, souvent, ils vont couper en début de journée, puis après, tu sais, en soirée, ça revient. Tu sais, je pense que dans n'importe quel contexte, on est capable de trouver notre équilibre. Est-ce que ça peut demander plus d'accompagnement, ça peut demander de se poser plus de questions, d'analyser un petit peu plus? Peut-être, mais ça ne veut pas dire nécessairement là, qu'on doit se tourner vers d'autres méthodes là, pour déterminer ses apports alimentaires. Donc, j'espère que ça va vous avoir donné un petit coup de pouce et que ça vous aide à vous inspirer par rapport à la manière qu'il est pertinent de déterminer les quantités qui sont adéquates pour nous. D'ailleurs, en ce sens, on me pose souvent la question, tu sais, mettons, ah, c'est quoi une portion de riz? C'est quoi une portion de poulet? Puis ça, j'ai fait une publication qui a fait quand même assez réagir par rapport à ça, tu sais, parce que quand j'ai commencé comme nutritionniste, on avait des petits modèles d'aliments qui sont des aliments en plastique, là, qu'on peut montrer à nos clients pour leur dire, ah, ben regarde, ça, c'est une portion de poulet, ça, c'est une portion de riz, tu sais, puis on a un peu été éduqués comme ça, sauf que pour moi, c'est vraiment aberrant de dire qu'une portion de poulet, c'est ça, puis qu'on montre la même portion de poulet à tout le monde, tu sais, parce que même moi, d'une journée à l'autre, je mange pas la même portion de poulet, tu sais, ça dépend de, justement, ma dépense énergétique, ça dépend de, tu sais, j'ai dû manger il y a 2 heures ou j'ai mangé il y a 5 heures, ça dépend du reste de mon assiette, mon poulet, il va-tu être servi avec des tomates ou va être servi avec un riz frit, tu sais, je fais que il y a tellement de choses. C'est, bref, l'alimentation, c'est tellement complexe, d'où l'intelligence impressionnante du corps pour nous aider à naviguer dans tout ça, qui est difficilement reproduisable par le cerveau humain qui essaie de calculer de manière mathématique, tu sais, qu'est-ce que tu devrais obtenir comme intrant. Donc, j'espère encore une fois que ça vous aide et je vous souhaite une magnifique fin de journée. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye! Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!